Au fil de l'eau revient sur cette antenne radio judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez. Nous voilà déjà le 19 septembre, on a tourné la bouée du moitié du mois de septembre et je reçois Jean Arbogast. Bonjour Jean.
Bonjour Marc.
Alors Jean, quel mois de tes naissances ?
Le mois d'octobre.
Mois d'octobre.
Le mois des vendanges.
Le mois des vendanges.
À l'époque. Allez. Parce que depuis ça a changé.
Ton signe ?
Balance.
Balance. Ton année, on ose le dire ?
Oui, 1946.
Voilà, un jeune homme avec nous. Alors, j'ose dire retraité, mais ce n'est pas tout à fait le cas.
Ce n'est pas tout à fait le cas. Retraité, effectivement, j'ai ma retraite depuis quelques années, puisque 76 ans, ouais. D'accord. Mais bon, je fais beaucoup d'activités.
Dont l'œnologie,
exactement.
Et autre chose.
Voilà. Avec d'autres personnes.
Alors, on y va.
Quand on est pirate, il faut être acrobate. Et savoir grimper sans se casser le nez. Oh is, oh is, oh eh. Pour rire et s'amuser, il n'y a rien qui batte. La vie de pirate.
La vie de pirate. Est-ce que tu as eu une vie de pirate, Jean ?
J'ai une vie de pirate. À partir de 45 ans.
45 ans.
Oui.
Tout le domaine s'est effondré.
Donc avant, j'étais dans mon domaine, comme viticulteur. Ça allait bien. Même très bien. Et puis d'un seul coup, les aléas de la vie ont fait que je me retrouve...
Aventurier.
Voilà. Et là, l'aventure a commencé.
Aventure terrible, parce que d'abord, je précise que tu avais plusieurs vignobles.
J'ai trois vignobles, oui.
Trois vignobles, dont des vignobles en Alsace, mais surtout aussi des vignobles où on faisait du cognac et de l'armagnac.
On faisait de l'armagnac et on faisait également de l'appellation Mont-Louis, c'est dans la Loire.
Tu peux m'expliquer la différence entre l'armagnac et le cognac ?
Alors, bien sûr, et alors déjà, il faut savoir que la distillation a été faite par les musulmans. Ça, peu de personnes le savent. Il faut savoir que quand les croisés sont arrivés à Saint-Jean-d'Acre, ils ont vu des gens de là-bas qui avaient un alambic, mettaient de l'eau dedans, des feuilles, des fleurs de rose. Et les croisés demandent, mais pourquoi vous faites ça ? Ben, on fait du parfum, parce qu'ils distillaient donc l'huile essentielle. Et les croisés qui étaient très peu portés sur les parfums, hein, surtout dans leur côte de maille par 40 à l'ombre, oui. Ils ont dit, on va essayer de faire ça avec du vin. Et ils ont fait du vin. Et c'est comme ça qu'a commencé la distillation.
Alors, on parle toujours, bien sûr, avec modération, mais comme j'amène, il a un très beau nom de société comme œnologue, au plaisir du vin. Ouais. Ça, on voyage tout de suite là-dessus. Bon, la barque, elle est différente, certes, mais bon, c'est une barque agréable.
Les barques ont beaucoup servi pour le transport du vin. Par toutes les voies fluviales et maritimes, évidemment.
C'était les échanges avec les tonneaux.
D'accord. Voilà.
Alors, toi aussi, tu es un voyageur, et je sais que tu as voyagé dans un pays qu'on parle un peu en ce moment, qui est au bord d'un pays où on parle beaucoup, qui s'appelle l'Ukraine. Et toi, tu me parles toujours de la Moldavie. Et de cette belle capitale.
Chișinău. Voilà, exactement.
La cité verte.
Parce que cette ville, elle est entourée d'arbres. Dans toutes les avenues, il y a des arbres, des très grands arbres. Et la plupart des habitations ou des maisons ne dépassent pas 2 ou 3 étages. Donc, effectivement, quand on survit le Chișinău, on voit de la verdure.
Alors moi, j'ai vu des photos. On se reverrait dans les décors de Sissi, l'impératrice.
Oui, et puis il faut savoir aussi que quand on parle de la Moldavie, c'est un petit peu le sceptre de Tokar.
Absolument, voilà. Tintin.
Exactement.
Tintin. Ouais, et mais Tintin. Aussi, ils ont un vin très particulier.
Ils ont un vin. Alors déjà, il faut savoir que la Moldavie, à l'époque de l'Union soviétique, enfin, l'histoire de la Moldavie est très complexe, puisque c'était la Bessarabie à l'époque. Et en fait, après l'Union soviétique, pendant l'Union soviétique, chaque région avait sa spécificité. La Moldavie, c'était surtout les vergers et le vin. Pas d'industrie, pas de production de pétrole, bien sûr pas de gaz, que ce qui est agricole. Après l'effondrement de l'Union soviétique, effectivement, le pays s'est retrouvé dans une situation un petit peu très difficile, puisqu'ils n'avaient que ça à la vente.
Oui, mais l'historique du vin ne date pas de l'Union soviétique, Jean.
Ah non, non, non.
Ah voilà.
Non, non. En fait, l'histoire du vin, je fais des cours sur l'histoire du vin qui date d'il y a plus de 8000 ans avant notre ère, hein, puisque ça a commencé, bien sûr, dans le croissant fertile, dans tout ce qui est également l'Égypte et bien sûr ce qui est maintenant l'Irak, l'Iran, enfin tous ces pays-là, la Syrie. Et donc l'histoire a vraiment commencé là-bas, l'histoire du vin. Et ça a été fait à l'insu. Des gens ont vu des grains de raisin. Ils avaient beaucoup de raisins à manger. Ils les ont mis dans un espèce de récipient. Ça a commencé à fermenter. Et puis ils ont bu ça. Et le vin est apparu.
Le miracle. Alors en Moldavie, ils font un certain vin.
Ils font un certain vin qu'on appelle le Cagor. Alors le Cagor, c'est un vin. Pourquoi Cagor? C'est une déformation du mot Cahor. Parce qu'il faut savoir, au XIXe siècle, l'empereur de toutes les Russies allait souvent à Eugénie-les-Bains, pour des bains, forcément, où il rencontrait bien sûr Napoléon III, et il a beaucoup apprécié le vin de Cahors. Il a voulu faire venir ce vin à la cour impériale, tsariste. Malheureusement, le vin n'a pas pu se conserver à cause des problèmes de transport à l'époque. Donc, pour conserver un vin, on le mute, c'est-à-dire on met dans le vin du sucre et de l'alcool. C'est un vin muté, comme du Porto, etc. Et donc, ils ont ce vin, ils ont gardé ce vin. Alors, après toujours la révolution bolchevique, bien sûr, l'importation de ces vins s'est arrêtée. Et c'est la Moldavie qui a pris le relais en faisant un succédané de ce Cahor qui est devenu le Cagor. Alors, c'est un vin rouge qui est très sucré, alcoolisé. Donc, c'est un vin de dessert. Un vin de dessert.
Voilà. Un vin de dessert. On peut le comparer à quoi en France? Au Massamiel?
Un petit peu, mais quand même relativement un petit peu, mais différent, quand même très différent. Ouais.
Alors, ce sont aussi des fabricants de tonneaux.
C'est des fabricants de tonneaux, parce que en fait, à l'époque, j'en reviens un petit peu, on avait des amphores, d'accord? On avait des amphores pour le transport du vin, qui cassaient, qui étaient lourds, et c'est dans cette région-là, en fait, ça a commencé un petit peu de faire des fûts en bois, qui était beaucoup, beaucoup plus important, qu'on pouvait transporter beaucoup plus facilement, une plus grande contenance.
Alors bien sûr, les gens ne le savent pas, les fûts sont faits en chêne. Oui. Et on parle toujours des chênes français, de la fameuse forêt de l'Allier troncée
voilà, voilà.
Qui sont des vins, qui ont une fibre et qui donnent un goût très particulier.
Oui, après ça dépend également comment on chauffe le fût, hein, en fonction de la chauffe. Ouais.
Mais eux, ils le faisaient avec des chênes de Hongrie.
Parce oui, c'est que ça.
Le bien chêne sûr, de Hongrie bien sûr, bien ou sûr. Le chêne américain.
Ouais.
C'est comme ça que la Hongrie s'est passée en chêne américain. C'est un peu surprenant.
Ouais.
Est-ce que tu as une histoire là-dessus?
Non, j'en ai pas.
T'en as pas. Ah ben, je l'avais, mais bon, je la garderai pour une prochaine fois.
Voilà.
Alors, t'as choisi un drôle de morceau. Là, c'est ta jeunesse.
Exactement. Mais comme je suis né en 46, donc... Quand j'étais tout gamin, Elvis Presley était en Allemagne et on m'a emmené là-bas pour voir, et ça a été pour moi le choc. Et puis après, je suis devenu un fan d'Elvis Presley.
Tu me raconteras les paroles de cette histoire.
Je te raconterai. Je l'ai raconté au jeune homme avant. He talked and talked and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere. And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said a goodbye. He was gone but still his words kept returning.
What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally?
Alors Jean, cette chanson, toi qui parles couramment anglais et que tu as traduit...
Couramment, c'est... Je comprends. Couramment, c'est... Je comprends. En fait...
Quelle modestie, j'en parlerai après. Vas-y.
En fait, c'est un Elvis, donc quelqu'un, un très vieil ami vient me voir dans ma ville et me dit, j'ai trouvé, je te raccourcis, hein, ouais. J'ai trouvé une jeune femme extraordinaire. Elle m'a promis qu'elle m'aimait toute ma vie et mon cœur brûle, burn, et mon cœur brûle pour elle. Et elle m'a dit qu'elle m'aimerait toute ma vie. Et j'ai souri. Quelques temps après, j'ai revu cette jeune fille, ou cette jeune femme, qui m'a tenu le même discours, qui m'a dit que j'étais grandiose, qu'elle m'aimerait toute ma vie, etc. Et qu'elle était... Et en fait, c'est comme tout. C'était ma dernière flamme, et j'ai souri. Voilà, donc.
Mais tu as plein de flammes encore. Parce que tu es un homme de projet. Alors, je sais, on ne va pas parler de tes vignobles et tout ça, mais je voudrais parler de cette expérience, parce que les auditeurs qui nous entendent savent que les gens savent toujours se relever, et tu es quelqu'un qui t'est toujours relevé, et tu es parti comme acheteur pour l'Angleterre, pour acheter des vins dans le monde entier.
Pas vraiment comme acheteur, comme dégustateur.
Dégustateur.
En fait, j'étais pas acheteur, j'ai fait la sélection des vins, donc j'étais un petit peu dans beaucoup de pays, j'étais bien sûr aux États-Unis, la Napa Valley, et toutes ces voilà. J'étais en Afrique du Sud
au moment de l'apartheid.
Au moment de l'apartheid, oui. Que j'ai pas beaucoup vu parce que disons dans le coin où j'étais, il y avait pas d'apartheid. Enfin, ouais. On le voyait pas. Ensuite, j'étais passé très rapidement en Nouvelle-Zélande et donc effectivement, j'ai fait la sélection des vins pour un très grand groupe anglais qui s'appelle Tesco. Voilà.
Et en fin de compte, quand on allait chez Tesco, on buvait des vins que Jean Arbogast, le français,
en partie,
avait choisi.
Avait choisi.
Alors, qu'est-ce qui était pour toi le plus important quand tu choisis un vin?
Alors, le plus important, bah, déjà, bien sûr, la couleur du vin. La couleur est très importante parce que les yeux, on pense toujours que la bouche. La bouche, c'est que la partie la tertiaire. Ce qui est le plus important au niveau du vin, c'est déjà la vue. Et la vue, la fluidité, la couleur, le disque du vin renseigne sur beaucoup de choses. Est-ce que c'est un vin jeune? Est-ce que c'est un vin vieux? Est-ce que c'est un vin muté, évidemment? Est-ce que c'est un vin oxydé? Est-ce que c'est un vin...
Avec de l'alcool?
Avec de l'alcool. Est-ce que c'est un vin qui a beaucoup de gras? Puisque, voilà. Donc, les yeux. Le nez, bien sûr.
Après. Alors, on me disait qu'on écoute aussi, qu'on déguste le vin avec les oreilles.
Oui, alors ça, c'est beaucoup plus pour, effectivement, les vins effervescents. On peut, mais enfin bon, j'ai pas une bonne ouïe, donc j'ai jamais entendu la poésie du vin dans mes oreilles.
D'accord. Alors après, bien sûr, le nez.
Le nez. Le nez est très important. Et puis, il faut savoir aussi qu'au niveau du nez, une narine sur deux fonctionne. On ne ressent pas les arômes de chaque côté des narines de la même intensité.
Est-ce que c'est lié au cerveau?
Ça, je ne sais pas. Mais effectivement, d'ailleurs, même si vous faites l'expérience, vous allez voir si vous bouchez une narine, vous respirez plus maintenant, moins du côté gauche, moins du côté droit, et puis ça change. Alors pourquoi, je ne sais pas.
Je rassure les auditeurs, nous n'avons que de l'eau. Nous n'avons pas de vin, donc l'eau ne sent rien. Voilà, parce qu'on pourrait penser qu'on est en exercice pratique. Dommage.
Dommage.
Hein, on y reprend ça. Et après, bien sûr, il y a le palais.
Il y a le palais. Alors, le palais, c'est quelque chose qui est... Alors, il faut avoir une très, très bonne... Alors, moi, je suis toujours admiratif de tous ces sommeliers qui font des concours internationaux et qui arrive, yeux, du nez et palais, à déterminer des arômes que moi, je n'arriverai pas à voir. Parce que c'est vraiment... Alors, l'œnologie, pas l'œnologie, la dégustation, c'est vraiment, il faut déguster tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est comme les gens qui font des gammes au piano. Le vin, c'est la même chose.
Alors, toi, qu'est-ce que tu cherches comme critère quand tu sélectionnes un vin? Parce qu'on font, tous les deux, souvent, on regarde et on a ce plaisir. Et je sais, tu peux le dire aux auditeurs, qu'est-ce que toi, tu sélectionnes en priorité et que tu donnes qui détermine chez toi un vin qui te plaît? Parce que là, il peut, pas, il peut plaire à beaucoup de gens, mais en général.
Alors, moi, un vin qui me plaît, alors en vin blanc, moi, j'adore, disons, par rapport à ses arômes, par rapport à son nez, alors... On est en Alsace, mais bon, ça semble bien. J'adore le Viognier. Et un très, très bon Viognier, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui a une puissance, qui a... Voilà. Moi, c'est le Viognier. Et c'est vraiment la puissance, et puis surtout au niveau du nez. Je suis très sensible au niveau du nez. Donc, tout ce qui est arôme de noisette, arôme de...
Alors, en tant qu'ancien viticulteur, tu vois la climat, tu parlais que tu étais au mois d'octobre et qu'on commençait les vendanges en octobre. Maintenant, on les a commencées déjà en août cette année.
Alors, pour les blancs. Exactement. Alors, comme dit, je suis né en 46. Donc, les vendanges, on les commençait toujours pratiquement aux alentours du début du mois d'octobre. Je suis né début octobre, donc début du mois d'octobre. Parfois, les vendanges se terminait, et je ne parle pas des vendanges tardives, des vendanges tout court, on terminait à la Toussaint avec des vins qui faisaient parfois que 9 degrés d'alcool en puissance. Maintenant, donc 50 ans après, on vendange fin août, début septembre, avec des vins qui font 12 degrés et demi, 13 degrés et demi d'alcool 4 à 5 semaines avant les dates de l'époque. Et il faut savoir, la dernière fois, j'étais dans un petit village dans le nord de l'Alsace qui n'est pas connu pour, sa région viticole. Il y avait du pinot noir. J'ai coupé du pinot noir.
Glébourg, je veux.
Non, vraiment. Avert. Donc, tu vois, ce n'est pas viticole. Et un pinot noir qui est, à l'époque, enfin, qui a une semaine, qui était déjà qui était très, très sucré. Donc, tout le climat est en train de changer au niveau viticole. Ça, c'est clair.
Alors, on va écouter le deuxième choix musical. On reviendra là-dessus parce que je sais que j'ai des questions très précises à te poser. Bien.
She was more like beauty queen from a movie scene.
tournage, ça, Michael Jackson?
Non, absolument pas.
Quel est ce choix?
Alors, ce choix, c'est parce que donc, c'était beaucoup plus tard, bien sûr, évidemment. C'est les années 85, je crois. Et en fait, c'était les premiers Michael Jackson. Ça a commencé, on connaissait bien sûr, on connaissait les Five et compagnie. Michael Jackson a commencé à monter. Il a fait bien sûr le Thriller. D'abord Medellin, puis après le Thriller. Et ça me rappelle des très, très bons souvenirs parce que mes enfants étaient très, très fous de ça. Et on écoutait ça pendant des heures.
On comprenait
rien aux paroles à l'époque.
C'est tout.
C'est tout, ouais.
Alors, Jean, je reviens un peu sur la nature, sur les vignes, sur l'ensemble des choses. Et on s'aperçoit quand même que nos cépages, sont-ils encore adaptés à notre région?
Alors, non. Non. Alors, surtout, effectivement, certains cépages. Les muscats souffrent beaucoup parce que ça donne... Celui qui souffre le plus, en fait, ce n'est pas les pinots noirs, ce n'est pas le Gewürz, ce n'est pas le pinot gris, mais c'est surtout les sylvanaires et surtout les Riesling. Riesling et pinot blanc qui souffrent beaucoup parce qu'ils ont perdu surtout le Riesling, cette typicité un petit peu
d'élégance qu'ils avaient, qu'ils étaient très scintillants.
Alors, on ne sait pas actuellement s'il faut... On avance les vendanges de plus en plus pour garder une certaine acidité. Et là, on aura un problème également, c'est les créments. Parce que les créments, le champagne, on connaît le climat champenois. On connaît bien le climat alsacien. Et il faut savoir que là, actuellement, les meilleurs créments, à ma connaissance, c'est les créments luxembourgeois. Parce qu'ils ont encore un petit peu...
De fraîcheur.
Un petit peu de fraîcheur. Et bien sûr, maintenant, commencent également les créments, anglais.
Alors, il y a une chose qui a complètement disparu, c'est le brouillard. Parce que quand vous vendangiez dans le temps, il y avait
du brouillard.
Et on mettait les vignes en palissandre, qui ont complètement disparu.
Complètement.
Tu peux expliquer?
Alors, il y a surtout une chose qui était, qu'on avait également à l'époque, avec le brouillard. C'est quand il y a du brouillard, automatiquement, ça se dépose sur la baie. Donc, on sait très bien que quand il y a de l'humidité, il y a des champignons, le Botrytis cinerea. Et ça, ça a complètement disparu, effectivement. Oui.
Alors, ces vignes en palissandre, ces vées, qui étaient hautes, qu'on faisait monter, c'était pour faire circuler l'air et enlever le brouillard. Ouais. C'est ça, Jean?
Exactement, oui. Et puis, il y avait une deuxième chose également. C'était automatiquement, tu avais plus de superficie donc foliaire pour absorber, effectivement, le soleil.
Le soleil. Donc, ça faisait que des raisins plus gros.
Plus gros, bien sûr, oui. Ça a complètement disparu, mais depuis quelques temps déjà. Hein.
Oui. Alors, quel cépage? Parce que je sais que tu es consulté au CIVA, que tu fais des conférences, et on parle de nouveaux cépages qu'on voudrait mettre en Alsace. On tâtonne.
Alors, il y a déjà plusieurs choses que je voudrais revenir. On parle beaucoup actuellement de vin orange, d'accord? Et en fait, moi j'avais, mais c'était à la fin de mon domaine viticole. Et à l'époque, j'ai commencé à faire du Gewürztraminer en macération. Il faut que tout le monde connaisse la macération, c'est-à-dire macération pelliculaire.
Ouais.
Au lieu de prendre des raisins, de les presser, que le jus s'écoule, j'avais commencé à les faire fermenter avec la peau dans les fûts. Et donc, ça donnait une couleur orangée. Et maintenant, tout le monde à peu près s'y met.
Mais on faisait comme ça le pinot noir, parce que le pinot noir...
Un pinot noir, oui. Pinot noir, mais pas le Gewürztraminer.
D'accord.
Hein? Et à l'époque, quand j'avais commencé, j'étais le premier. On m'a dit, Jean, ça ne marchera jamais, ce n'est pas comme ça qu'on fait un vin. Et maintenant, on voit les sylvanaires. Le vieux sylvanaire, il existe des sylvanaires rouges.
Ouais.
Tu le sais peut-être,
Les
sylvanaires rouges, à peau rouge. Et maintenant, c'est devenu une habitude, une habitude. On commence à avoir des vins oranges.
Alors, est-ce que tu vois un cépage qui va arriver, qu'on va être obligé d'installer et remplacer quelque chose, par exemple par le muscat, ou qu'on va en remplacer par le sylvanaire? Qu'est-ce que tu vois comme cépage blanc arriver? Ou rouge, peut-être le syrah? Non.
Non, le syrah marchera très bien, puisque ça donnerait encore des vins beaucoup plus puissants. Pour le blanc, je ne vois pas. Il faudra avoir des vins qui aient beaucoup de fraîcheur, des cépages qui ont beaucoup de fraîcheur. Mais là, je ne sais pas.
Alors, c'est bizarre, tu m'as fait découvrir un cépage qui était extraordinaire, le Rivaner.
Ah, le Rivaner, oui. Tiens, ça va peut-être deviner. Les Rivaner, effectivement, c'est un cépage allemand, de l'autre côté du Rhin, qui a un croisement entre du Sylvaner et du Riesling. Hein. et qui pourrait peut-être apporter une certaine fraîcheur. Oui.
Donc c'est bien ça, riz pour Riesling,
voilà,
Vaner pour... Alors moi j'avais dégoûté ce vin avec toi, parce que tu as été aussi responsable à un moment des caves luxembourgeoises.
Exactement, j'étais responsable des caves luxembourgeoises de Vin Moselle,
voilà, grand domaine.
Voilà, à Rémiches. Entre autres, ils sont pas seulement à Rémiches, dans d'autres domaines. Et j'ai fait la promotion de ce vin également à Moscou à l'époque.
Alors bien sûr, toujours avec modération, tout cela, on parle de cépage, on parle de vin. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de notre histoire, de la nuit des temps, même dans la Bible et dans tout
même, mais bien avant
la Bible. Bien avant. Alors on a fait un joli voyage dans les feuillages et dans les raisins et dans les grappes. On est allé de la Moldavie en passant par l'Afrique du Sud, que tu m'as souvent parlé, la Nouvelle-Zélande, où tu as eu un gros coup de cœur en Nouvelle-Zélande.
Et également, bien sûr, pour un vignoble qui est très très peu connu, qui est en Californie, qui s'appelle le vignoble de la Temecula, qui est très très peu connu et qui fait des vins extraordinaires. Mais petit vignoble,
très rare. Eh bien écoute Jean, plaisir du vin, tu donnes des cours encore ?
Je donne des cours encore, j'ai fait également des prestations.
On te trouve sur Facebook avec et sur Internet,
voilà.
Où tu fais encore des prestations d'œnologie. Tu donnes des cours à l'université ?
À l'Académie des Vins.
À l'Académie des Vins.
À l'Alsace.
Voilà. Tu es professeur émérite.
C'est un grand mot, mais bon.
Oui, tu es modeste. J'aime bien. Et tu es un fervent dégustateur animateur des foires au vin.
Exactement.
Voilà.
Qui recommence la prochaine fois. Bon,
ça, ouais. c'est ta passion.
Et c'est là, ma passion. Oui.
Et partager
avec les
autres. Alors écoute, je suis heureux de t'avoir accueilli. Monsieur voilà. Jean Arbogast, plaisir du vin. Et déjà 30 minutes se sont passées, écoulées. Pff, ça passe à la vitesse du vin. Mais toujours avec modération. Alors, là, on va faire une pause parce que le 26, il n'y aura pas d'émission. Voilà, on se retrouvera début octobre. Et début octobre, vous le savez peut-être, je vous ai fait une surprise car ça a été beaucoup demandé. Hannibal revient en Alsace.
Merci Marc. Merci Jules Daïka. Merci à tous.
Plaisir.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier. Martelé au rythme d'un moteur régulier. Un bruit répétitif aux effluves de gasoil. Et ça cogne du cœur jusque dans la cale. À la croisée des usines et des cathédrales, des jours passés à noyer le temps et les paysages. Une mélodie oubliée entre la Seine et l'Oise. Chants de bateliers, les fleuves, les canaux, les rivières. Chante le refrain oublié du voyageur linéaire. Toute une vie qui se traîne en longueur, de Paris, Anvers ou Amsterdam. Au rythme de l'eau et du moteur, endosser sa vareuse et son vague à l'âme. Vogue la galère et les instants de bonheur. Finir les fins de mois, même à la rame. Prendre le temps qui s'écoule, tout en douceur. Au café du port, ils prennent des nouvelles. Du mariage de l'un, du décès de l'autre. Revoir son fils qui préfère vivre en ville, ou de sa fille qui est restée pensionnaire.